isn't it working? Oh boy, Bonnie.
Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Excusez-nous, il y a un petit problème au départ, technique de son. Alors juste, voilà, nous sommes vendredi déjà, donc le 18 décembre, et vous êtes, chers auditeurs, en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement, j'ai dit, à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, il est tout à fait évident que dans quelques jours, nous allons tourner une page d'une partie de notre vie, de notre histoire, et forcément, qu'on le veut ou non, cette histoire-là, ça va s'écrire à son tour dans la mémoire de chacun et dans notre mémoire collective. Mais ce que je souhaite de vous faire rappeler, c'est qu'il ne faut jamais, je dis bien, il ne faut jamais, chers auditeurs, oublier ce qui nous a marqué tout le long de l'année. Autrement dit, il faut se rappeler de temps en temps ces moments, ces personnes, ces réactions qui nous ont fait réagir. Alors je citerai à titre d'exemple, par exemple, la transition du gouvernement fédéral des mains des conservateurs aux libéraux, et pour être plus précis, je parle de ce coup de force qui a délogé Stephen Harper de son trône. Ça, c'est quelque chose de monumental. Alors le Canada était en train de s'étouffer, la démocratie même pliée de toute société moderne était en train de se craquer aux yeux de tout le monde, sans que personne ne pourrait changer quoi que ce soit. Alors, et la venue justement de Justin Trudeau, malgré les difficultés apparentes de ce gouvernement, cette transition de gouvernement nous a oxygéné. C'était vraiment une bouffée de fraîcheur à ne jamais oublier. Et vous comprenez que les injustices et les abus de l'autorité dans toutes leurs formes et à tous les niveaux sont dommageables et dégradables à la structure d'une société avant même de parler de son impact sur la vie des citoyens. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez à force de bras électoral changé un gouvernement arrogant qui a été trop injuste à plusieurs niveaux, un gouvernement qui ne reflétait tout simplement pas ni l'opinion et encore moins la vision de la majorité de la population en général. Finalement, le changement est fait grâce à vous et c'est un demi-mal puisqu'il y avait cette possibilité d'exprimer la volonté de la majorité et dire non, ça suffit. Chers auditeurs, chères auditrices, et si vous avez réussi ce tour de bras d'un palier de gouvernement à l'autre, c'est que votre prise de conscience, je dis bien, votre prise de conscience a réussi à rejoindre un nombre infini de nos citoyens et ce nombre a finalement mis terme à l'abus de l'autorité à ce niveau de la pyramide. Il semble tout à fait évident que cette même prise de conscience pourra, je dis bien pourra, nous propulser à d'autres étapes et pourquoi pas, chers auditeurs, chères auditrices, la quête de la justice dans une société qui affiche faussement société exemplaire en matière de justice et de l'égalité de chance entre les individus. Alors, toute chose ou action, chers auditeurs, débuteront par une prise de conscience individuelle puis collective. Imaginez-vous, avant la mise sur pied, par exemple, de la commission Charbonneau sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie, personne ne s'imaginait l'étendue de la corruption dans l'appareil de l'État et personne non plus ne s'imaginait la filtration du crime organisé dans cet appareil. Et ce n'est pas juste grave, c'est bouleversant, c'est choquant. L'État devra être hors de tout soupçon et savoir que l'argent des contribuables était dépensé, je dis bien robinet ouvert, grand ouvert, à servir des intérêts personnels de X et Y. Il y a de quoi, chers auditeurs, d'être révolté. Alors bref, chers auditeurs, chères auditrices, je vous ai cité cet exemple, c'est simplement pour vous dire, avant la mise sur pied de la commission Charbonneau pour enquêter justement sur cette gangrène de corruption orchestrée apparemment et en plus par le crime organisé et que les fonds des finances publiques avaient l'air de s'évaporer par vagues sans que personne ne se rendra réellement compte. Savez-vous que, chers auditrices, chers auditeurs, que la grande majorité des citoyens au Québec Québec ignorait totalement l'existence de ce phénomène, de ces pratiques, et n'allait probablement même pas vous croire si vous avez tenté de la révéler une chose pareille. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, malheureusement, l'existence de l'injustice et l'abus de l'autorité au Québec sont encore plus graves que cette corruption qui a corrompu une grande partie de l'appareil de l'État, sans vous préciser l'impact, je dis bien, l'impact de cette corruption sur le financement des partis politiques. Encore et bref, chers auditeurs, il n'y a rien d'honorable dans ces révélations multiples, mais je veux que vous compreniez l'existence et la gravité de l'injustice et de l'abus de l'autorité sur la vie des citoyens au Québec. Avant de penser faire une demande d'enquête s'il le faut et ouvrir des milliers de dossiers, ce qui ne va probablement jamais arriver, il faut d'abord, chers auditeurs, activer cette prise de conscience dans chacun de nous pour aller peut-être vers une étape aussi importante, le renforcement de notre rapport de solidarité l'un vers l'autre. Rappelez-vous, chers auditeurs, ces paroles de ce philosophe qui disait « Il y a déjà des siècles, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. » Alors, chers auditeurs, chères auditrices, malgré que la commission Charbonneau n'a pas réglé le problème, mais elle a ralenti considérablement, si votre conscience, cher auditeur, s'éteint à un moment donné, ce problème de corruption qui a dévasté les fonds publics reviendra à la caisse du départ. Il ne faut jamais crier victoire. Et sachez qu'en face d'un homme honnête, attendez qu'il y a toujours quelqu'un de pourri de l'autre côté. Alors, je sais que c'est fatigant, mais la vie, chers auditeurs, chères auditrices, est faite de cette sorte, et la lutte, heureusement, se poursuit pour rétablir l'ordre et la justice. Maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse pour les victimes de l'abus de l'autorité, qui communique souvent avec notre mouvement, le mouvement Action Justice, et qui refuse de participer à nos émissions de crainte, soi-disant de représailles. J'aimerais bien dire à ces gens-là que vous avez malheureusement sous-estimé votre témoignage, votre dénonciation dans une telle émission de radio qui tente justement de sensibiliser les politiques et les responsables de ce secteur. Vous avez sous-estimé, chers auditeurs, votre participation, votre solidarité, votre appui, parce que c'est à partir de vous, à partir d'un chiffre 1, chers auditeurs, on peut rejoindre, et pourquoi pas, l'ensemble des victimes. Ne sous-estimez jamais votre témoignage et vous ne devrez pas avoir de crainte. Le principe, c'est de dire la vérité, d'autre que la vérité. Alors, je continuerai à vous encourager, celles et ceux qui sont témoins ou victimes d'une injustice ou d'un abus de pouvoir de l'autorité, de venir sur ce plateau partager avec nous votre frustration, votre désir de vouloir stopper ce phénomène, un phénomène un peu dégueulasse dans cette société. Alors voilà, au micro avec vous ce matin, Adjaz Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Chère auditrice, chers auditeurs, mon invité ce matin est Monsieur David Sanschagrin. Il est étudiant au 3e siècle à l'université de l'UQAM. Il s'intéresse particulièrement au rapport entre la politique et le pouvoir judiciaire. Il a été sensibilisé aux abus et à la violence de la police à travers son implication dans la grève étudiante de 2012, durant laquelle il a été appréhendé et détenu pendant 24 heures. Il a été relâché avec des accusations, bien sûr, de voies de fait armées contre des agents de la paix et soumis pendant un an et demi, à des conditions de libération sévères, couvre-feu, interdiction de manifester, obligation de garder la paix, et j'en passe. Maintenant, bien qu'il ait gagné son procès où des policiers avaient témoigné contre lui, il a compris finalement la précarité, et c'est ça qui est important, cher auditeur, il a compris finalement, j'ai dit bien, la précarité de sa liberté civique et le danger d'un pouvoir policier arbitraire qui pouvait s'abattre sur les étudiants, sur les pauvres, sur les immigrants, sur les itinérants et sur les minorités visibles, et j'en passe. Alors, monsieur David David, son chagrin est venu justement ce matin pour nous dire à travers son aventure avec l'habit du pouvoir à quel point, c'est ça qui est important, il voulait nous dire à quel point la prise de conscience peut jouer un rôle de réveil collectif dans la société civile. Alors je vous informe également que ma collègue Paula Gomez, avocate de profession dans son pays d'origine et bénévole dans notre mouvement, m'accompagnera tout le long de cette émission. Chère auditrice, chers auditeurs, restez à l'écoute. Après notre thème musical, nous vous inviterons à suivre le témoignage et l'éclairage de notre invité de ce matin, M. David Sans Chagrin, étudiant en troisième cycle à l'Université de l'ICAM, qui questionnera probablement à travers son témoignage les méthodes, l'attitude, l'agissement de l'appareil de l'autorité grandement en défaut ce matin. Alors restez à l'écoute. Après notre pause musicale, on va revenir avec vous.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un bas obscène est à la lune.
Qu'est-ce que vous avez dit ça? Rebonjour, chers auditeurs et chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et on revient ce matin avec notre invité d'aujourd'hui, M. David Sanschagrin, qui est étudiant en sciences politiques, je précise, en sciences politiques à l'Université de l'UQAM. Et qui est venu aujourd'hui justement nous parler un petit peu, non pas simplement de ses études, mais en plus de nous parler de cet impact d'être accusé faussement parce qu'il avait participé à une manifestation en 2012. Il était quand même été, il a eu des sévères conditions, donc il restait quand même pendant un an et demi en train de d'attendre ce procès qui a duré, mais finalement il a été acquitté. Alors bonjour Monsieur David Sanschagrin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et de répondre à nos questions. La première question, d'ailleurs, j'aimerais bien vous poser la question. Vous êtes un étudiant à l'UQAM en sciences politiques en troisième cycle. Et qu'est-ce qui vous a amené, plutôt, c'est pas qu'est-ce qui vous a amené à faire des études, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir la politique canadienne? Vous précisez, vous spécialisez un petit peu dans tout ce qui est système judiciaire, la charte, les droits de liberté. Qu'est-ce qui vous a amené à ce domaine-là précis?
Eh bien, je suis une personne un peu perverse. Je m'intéresse aux angles morts de la démocratie. Donc, on va faire l'apologie de la Charte des droits et libertés, des juges qui défendent nos libertés. Mais moi, je m'intéresse toujours à ce que l'image officielle cache. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, justement, cette belle charte, ces beaux juges? Mais qui a accès à la justice? Est-ce qu'il y a une égalité dans l'accès à la justice? Quel est l'impact de cette justice-là sur la démocratie, sur la mobilisation citoyenne? Et est-ce que les citoyens dont leurs droits sont brimés peuvent facilement défendre leurs droits en évoquant la charte? Donc, c'est toutes ces questions-là qui m'intéressent, mais aussi, est-ce que cette charte-là, justement, reflète une justice pleine et entière? Est-ce que ça reflète certains intérêts plutôt que d'autres? Comme on sait, par exemple, au Canada, que le groupe qui mobilise le plus la Charte des droits et libertés, c'est les entreprises. C'est pas les citoyens dont leurs droits sont brimés, et c'est surtout pas les minorités visibles qui se font harceler par la police qui peuvent mobiliser la Charte des droits et libertés. Et la Charte des droits et libertés tend à défendre des libertés individuelles. La Charte des droits et libertés ne force pas les gouvernements à mettre en place une justice sociale, à défendre la justice, à protéger. Donc la charte, elle est réactive, les juges sont réactifs. Alors moi, c'est cet angle mort-là, justement, de certains discours de la démocratie, des droits qui m'intéressent.
Autrement dit, vous parlez un petit peu de l'accès à la justice est devenu coûteux, difficile, même presque quasiment... très difficile pour les citoyens.
Oui, ben une ancienne juge de la Cour suprême disait elle-même qu'avec son salaire, elle ne pourrait pas se payer un litige en Cour suprême du Canada.
My God, à ce point-là, ça veut dire que... Alors, vous mettez un petit peu en évidence un peu ce qui est la pratique de la loi, la théorie de la loi et sa pratique, donc il y a quand même une distance de lumière entre les deux.
Oui, exactement. T'sais, il faut être conscient que la Charte des droits et libertés est un progrès pour beaucoup de groupes qui sont défavorisés, ouais. Les femmes, les minorités visibles, les francophones en dehors du Québec, etc. Donc, il ne faut pas nier ça, mais il ne faut pas être aveugle non plus sur le fait que cette justice-là coûte cher, elle est peu accessible, et c'est pas le progrès social incarné, là. Ça reste des juges qui ont une formation plutôt conservatrice, une vision plutôt conservatrice du droit. Donc, il ne faut pas oublier que la mobilisation citoyenne est essentielle.
Mais dans votre thèse de doctorat, là, vous préparez, je pense que vous êtes en chantier, j'imagine, qu'est-ce que vous visez réellement? Est-ce qu'il y a des solutions à apporter? Est-ce qu'il y a des points de sortie?
Alors, pour le doctorat, je m'intéresse à comment le discours judiciaire a construit l'État canadien, qui sont les acteurs d'importance qui ont construit l'État canadien, et comment le discours entre ces grands juristes-là, qui sont des fois premiers ministres, des fois ministres de la justice, des fois juges de la Cour suprême, professeurs de droit, comment cette conversation-là entre ces hommes puissants-là, parce qu'on parle d'hommes ici, a construit un État canadien basé sur un discours du droit. Parce qu'il faut savoir que l'idée d'une charte des droits au Canada est apparue à peu près dans les années 30, et cette idée-là a pris du galon jusqu'à temps que Pierre Trudeau arrive à la tête du gouvernement du Canada en 1968. Il était un défenseur d'une charte des droits constitutionnalisée. Fait que je m'intéresse à comment c'est un débat de juristes qui s'est construit et quelle est la vision des droits et libertés que ces gens-là avaient. Il faut se rappeler que c'est des hommes qui appartiennent à des milieux privilégiés, qui ne connaissent pas l'injustice que les pauvres vivent, que les minorités visitent. Donc, ils avaient une certaine idée d'une justice.
Mais le terrain, c'est un petit peu absent du terrain, tu veux dire? Le terrain de base, on parle de
Je parle de gens qui étaient professeurs de droit, de gens comme Pierre Trudeau, dont les parents étaient millionnaires. Mm-hmm. Donc, je parle des droits d'hommes qui avaient quand même une vision généreuse. Ils voulaient enchâsser des droits et libertés dans la Constitution du Canada, mais ils avaient une vision nécessairement limitée par la justice parce qu'ils vivaient une situation de privilégié. Mm-hmm. Donc, nécessairement, ils ont mis les jalons d'une société plus juste, mais c'est à nous de continuer à la rendre encore plus juste, et surtout aux gens qui sont en situation de qui sont des personnes défavorisées. Ils ont une vision du monde que n'ont pas les hommes privilégiés qui ont été à Harvard comme Pierre-Éliott Trudeau.
Très bien dit. Mais monsieur David Sanschagrin, ce qui vous a amené justement, on vous parlait de la pratique, vous parlez de la théorie et la pratique, il y a une distance, et je dis bien une distance de lumière, mais vous êtes, qu'est-ce que vous interpellez? Je sais qu'à un moment donné, en 2012, comme étudiant à l'UQAM, vous avez fait votre part, vous avez participé à cette manifestation-là, et paf, il y a quelque chose qui est en sur vous, et ça vous réveille. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette aventure?
Oui, ben, je tiens à dire que ma situation par rapport à la grève de 2012 est tout à fait banale, en ce sens que je ne suis pas le seul qui a vécu ça, et il y en a qui ont vécu des choses encore pires que moi, des gens qui ont perdu un œil, il y a des gens qui ont perdu des dents, et que ma situation, ça m'est arrivé une fois, mais c'est la vie au quotidien des itinérants, des pognes dans la rue qui se font harceler continuellement par la police. Donc moi, ça m'est arrivé une fois, mais on dit que le coup de matraque, c'est une éducation à la vitesse de la lumière sur la réalité de la justice dans une société. Eh bien moi, je l'ai expérimenté en 2012, cette éducation-là très rapide à coup de matraque, de poivre de cayenne et de gaz lacrymogène. Mais même à ça, moi j'ai manifesté énormément en 2012. J'ai dû prendre part à peu près à 80 manifestations, des fois 2 manifestations par jour, des fois 3 manifestations par jour. Donc c'était une vie assez intense, une vie de militance assez intense. Mais quand je manifestais, au début on a peur des policiers, mais à un moment donné on s'habitue, on s'endurcit un peu.
Ça a été long, vous voulez dire, oui.
Oui, mais on se dit le pire qui peut arriver, c'est un coup de matraque ou de respirer du gaz lacrymogène. Mais j'étais encore plutôt naïf, parce qu'il y a plus que le gaz lacrymogène, les coups de matraque. C'est lorsque dans une manifestation, quand les policiers prononcent l'ordre de dispersion, là on parle d'une foule de 10 000 personnes. On ne peut pas se disperser en claquant des doigts. Là on est une foule compacte de 10 000 personnes et l'anti-émeute charge à grande vitesse. Et là on essaie de voir par où on peut se sauver, mais des fois il y a juste pas de moyen de se sauver. Et quand on est en queue de manif, comme je l'étais dans ce mois de mai 2012 là, eh bien j'étais une cible facile à être identifiée par le groupe d'intervention du SPVM. J'étais plaqué au sol par un homme qui avait une carrure un peu genre NFL football. Mais là, une fois qu'on est plaqué au sol, là, on se dit, ah mon Dieu, ça c'est ça, j'avais pas prévu.
Ah oui, voilà.
Ça c'est l'élément que j'avais pas prévu.
Mais tout le long, excusez-moi, Monsieur Saint-Jacques, tout le long de votre, vous avez manifesté, vous êtes toujours pacifique, vous êtes toujours quelqu'un de.
Oui, j'ai jamais, jamais.
Vous avez pas l'air de quelqu'un qui a pu poser un geste illégal. Je veux dire.
Non, effectivement, moi je suis pour une dissidence, mais une dissidence qui est pacifiste. Je suis contre la violence contre les individus, à moins qu'on parle de légitime défense. Donc, je n'attaquerai jamais un individu, mais je me réserve le droit de m'opposer pacifiquement à l'autorité.
Voilà, c'est ça.
Théorie, la Charte des droits et libertés défend le droit de réunion pacifique. Je dis bien en théorie, parce que dans les faits, les juges, ils veulent pas l'appliquer, puis ils en parlent pas du droit de réunion pacifique.
Et malgré ce mouvement pacifique, là, vous êtes en train de marcher, là, vous êtes plaqué au sol, vous êtes arrêté, il y a une arrestation, vous êtes détenu pendant 24 heures, après ça, vous êtes relâché, et après ce qui est plus grave, c'est que vous étiez accusé par les policiers de voie de fait.
Oui, effectivement.
Armé encore.
Oui, mais ce qui arrive, c'est que, et c'est ça que j'ai compris, en fait, c'est que les policiers, finalement, ils ciblent des gens dans la manifestation, paf, ils les couchent au sol, et ils les arrêtent, et là, peu importe si on a fait quelque chose ou non, ils nous collent des accusations.
Je veux dire, c'est facile pour un policier d'accuser quelqu'un.
Il a de la crédibilité, la crédibilité qu'un étudiant n'a pas. On juge que c'est un professionnel. Et si on regarde année après année, les sondages disent que la population, à 75%, a confiance envers les policiers. Les députés, c'est à peu près 20%. Fait que les policiers et les juges sont parmi les gens qui ont le plus de confiance dans la population. Fait que donc, si un policier m'accuse, moi, en tant que petit étudiant, qui ne travaille pas, qui ne paie pas de taxes, parce que le contribuable de nos jours, c'est une personne sacro-sainte, là. Fait que donc, j'ai moins de crédibilité devant lui. Fait que s'il m'accuse, c'est à moi de démontrer démontrer que j'ai autant de crédibilité que lui.
Et c'est ça le problème. C'est ça, ça c'est le plus gros problème qui se pose, parce que toutes les victimes qu'on reçoit ici sur ce plateau-là ou ailleurs, dans le bureau, dans le mouvement, exactement, c'est trop facile, il me dit, c'est trop facile d'accuser quelqu'un qui, tu comprends, justement pour le décourager, justement pour poursuivre les policiers. Dans votre cas, malheureusement, c'était le cas. Vous étiez accusé, c'est des policiers qui sont venus même, hein, et sans gêne aucune, ils vont venir à la cour, ils vont dire voilà, 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 et c'est des mentries, hein, c'est des
cantons. Mais oui, parce que moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est sûr que moi, je bénéficie d'une certaine crédibilité. Mon avocat, il a dit, David est un étudiant au doctorat, un boursier, un étudiant qui a du succès et tout, je m'étais bien habillé, je suis capable, je suis une personne qui est éloquente, je suis capable de bien parler et tout, fait que veux pas, ça me donnait une certaine crédibilité en cours face à des policiers.
Et imaginez-vous d'autres personnes
c'est exactement
vulnérables. C'est ça le problème. Oui.
C'est là où ce que je veux en venir. Moi, je suis habitué de par ma formation universitaire à parler en public, à bien me présenter, à trouver les mots justes, à avoir un langage sophistiqué. Donc, je parle un langage similaire du juge à laquelle je fais face et de la procureure qui m'accuse. Je ne suis pas intimidé par ces personnes-là.
Voilà. Ouais.
Parce que mes professeurs d'université avec qui je discute en salle de classe, ils ont le même niveau de scolarité que ces gens-là. Fait que je ne suis pas intimidé. C'est ça que je voulais dire qui est très important.
Ouais.
C'est pas tout le monde qui arrive équipé en cours pour être capable de se défendre.
Ouais.
Et il y a un autre élément que je veux dire. Les policiers ne se sont pas rencontrés avant mon procès. Ils n'ont pas coordonné leurs histoires.
My God, c'est ça ce qui...
Si les policiers avaient coordonné leurs histoires...
J'aurais pu être accusé, quoi.
Mais j'étais accusé de voies fermées sur un genre de la paix. Donc, je risquais de la prison ferme.
Mmh.
Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que les policiers ne se sont pas coordonnés.
Mmh.
Donc, leur discours est absolument ridicule. Ils avaient deux versions totalement différentes du même événement. Le premier policier a dit que la manifestation était très bruyante et très violente. Le deuxième, il a dit qu'on était 30 personnes, on était pacifistes. Donc, si les policiers s'étaient coordonnés, qu'est-ce qui se serait arrivé? Est-ce que je serais aujourd'hui ici en train de discuter ou est-ce que je serais encore aux études?
Exactement, exactement. Et c'est ça le cas de ça, ce qu'on nous on reproche. Le nombre de personnes derrière les barreaux présentement aussi, il y a un nombre qu'on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais suite à cette expérience que vous avez vécue dans la cour, il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, justement, de se défendre par rapport à des policiers qui les ont accusés à fausse, hein, à tort, hein, et qu'ils étaient condamnés.
Oui, alors, et une chose que je voulais dire aussi, j'ai découvert aussi que d'avoir hésité à son arrestation, j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde qui est arrêté le reçoit.
Ouais.
Peu importe si on a résisté ou pas, parce que la procureure qui m'accusait a demandé au premier policier qui m'accusait comment a-t-il résisté, et le policier a dit il a dû résister. il a pas dit comment j'ai résisté, il a dit il a dû résister parce que généralement les gens résistent. Hein? Et le deuxième policier, quand la procureure lui a demandé comment a-t-il résisté, il a dit il s'est ridicule quand on lui a passé les menottes.
Ils sont ridicules. Hein?
C'est absolument ridicule.
Ouais, ouais.
J'avais trois policiers anti-émeute. On parle d'hommes de 6 pieds 2, 220 livres,
ouais,
qui font des poids et haltères, qui m'ont plaqué au sol avec la matraque. J'ai pas pu résister. Même si j'avais voulu, je ne pouvais pas bouger.
Mais monsieur Sans Chagrin, il faut comprendre aussi que vous étiez un petit peu... Vous savez, c'est politisé un petit peu, hein, la manifestation étudiante et tout. Même les juges étaient sensibles à ce point-là. Et je pense qu'il y a certains, un plus grand nombre d'étudiants qui étaient acquittés dans, de plusieurs charges.
Mais on parle de la grande majorité des étudiants qui ont été acquittés.
Ouais, c'est ça.
Mais une chose qu'il faut dire, une semaine avant mon procès, on m'a fait une offre de plaider coupable et de me faire amnistier.
Exactement.
Et je ne suis pas la seule qui a vécu cette situation-là.
Ouais.
Et la raison pourquoi la procureure m'a fait cette offre-là, c'est parce qu'elle savait qu'elle avait à peu près rien contre moi.
Ben oui, exact, oui.
Et ça va contre la déontologie, hein, de la profession de cette procureure-là. Et je ne suis pas la seule personne qui a eu ce genre d'offre-là.
Mmh.
Et j'ai refusé par principe, mais j'avais peur.
mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la plupart du temps, hein, quand on questionne les gens qui s'en vont à la cour, et surtout les plus vulnérables, hein, on leur propose cette offre-là, et des fois ils sont forcés de le prendre. Hein, ils sont forcés de
mais
le prendre.
Mais c'est surtout, ça dépend, est-ce qu'on a un avocat, est-ce qu'on est à l'aise en cour, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on a un dossier criminel préalable qui fait qu'on n'a pas de crédibilité devant le juge, sont toutes des questions qu'on se pose. Moi, je suis arrivé, pas de dossier criminel, je me sentais à l'aise, j'avais pas peur d'affronter les policiers. C'est pas tout le monde qui a ma situation privilégiée.
Exactement. Même si dans le cas où ils ont pas de cas judiciaire, il y a des gens qui n'ont jamais eu de cas judiciaire, ils ont plaidé coupable et ils étaient des gens qui sont innocents, tu comprends? Et c'est ça qui est grave. Alors, et malheureusement aussi, il y a des avocats avocats, imaginez-vous des avocats qui, pour finir un petit peu par ce dossier, parce qu'ils sont payés par tranche, hein. Alors les avocats, pour finir le plus rapidement possible, ils vont même eux proposent aux victimes de plaider coupable. Oui. Alors vous voyez un petit peu la gravité. Maintenant revenons un petit peu, peut-être juste une dernière question à propos de ces. Je sais que vous avez été acquitté dans ce procès-là. Oui. Qui a duré quand même un an et demi, mais pendant un an et demi, vous avez quand même été plié à des conditions très sévères. Oui. Aussi.
Je voudrais préciser que mes conditions de libération ne disaient pas que je n'avais pas le droit de manifester. Mmh. Mais ça disait que je n'avais pas le droit de participer à une manifestation non pacifique. Ah oui. Et je n'avais pas le droit de participer à une manifestation illégale. Ah. Il faut savoir qu'en 2012, les étudiants et étudiantes qui manifestaient refusaient de donner leur itinéraire par principe.
Exact.
Et pour ne pas faire contrôler leur manifestation pour ne pas que l'anti-émeute puisse mieux se positionner pour nous faire une embuscade. Mmh. Donc, chaque manifestation était illégale.
Exactement.
Donc, de facto, ça disait que je n'avais pas le droit de manifester.
Mmh,
et après ça aussi, en droit, c'est très difficile d'apprécier la notion de manifestation pacifique. Mmh. Parce que c'est le policier sur le terrain qui va décider si la manifestation est rendue illégale, si la manifestation est rendue turbulente, non pacifique, voire une émeute. Donc, c'est le policier sur le terrain qui a un pouvoir d'appréciation immense et très arbitraire de dire à un moment donné, la manifestation est illégale.
Oui ou non.
Donc, moi, si je suis là, au début de la manifestation, puis elle est rendue illégale, il faut que je me dépêche de m'en aller. Mmh. Fait que entre vous et moi, j'ai décidé de ne plus y aller parce que je ne voulais pas prendre ce risque-là. Ça ne me tentait pas d'aller passer une semaine à Bordeaux.
Exact. Mais pour maintenant revenir un petit peu, vous dites que, par exemple, réprimer des manifestations, c'est pas non pas en fonction de ce qui se passe, mais en fonction de la cause, hein, ou de l'identité sociale et
politique. Effectivement.
Voilà.
Et ça renvoie aux travaux de Francis Dupuy-Déry et de beaucoup d'autres ailleurs. Mmh. Grosso modo, les policiers réagissent aux gens qu'ils ont devant eux. Au statut social,
exact, oui,
des gens, et je vais donner un exemple. J'étais en 2008 un employé du Reine-Élisabeth, un hôtel, et on était en grève. Nous avons occupé le lobby du chic Reine-Élisabeth. On était à peu près 600 employés dans le lobby. On avait mis des tables et on mangeait du poulet qu'on avait fait livrer dans le lobby. Le policier est rentré dans le lobby en casquette. Il était poli. Il a parlé avec nous. Il a dit, ah, vous savez, l'anti-émeute s'en vient. On va intervenir d'à peu près 30 minutes.
Il y avait une communication.
Il était poli, respect, il était gentil.
Ouais.
Il faisait des petites blagues, il était souriant, il était détendu, il avait bien du fun. Hein?
Ouais.
Et il a dit, écoutez, dans 30 minutes, l'anti-émeute intervient, ils sont dehors, ils mettent leur pad,
alors,
pas de stress.
Prenez votre temps. Ouais.
Dans 25 minutes, j'aimerais ça que vous commenciez à quitter. Tout va être correct. Ça, c'est en 2008.
Ouais.
Et en 2012, quand on manifeste, le policier avec la casquette qui est gentil, on le voit pas.
Ouais.
On voit tout de suite l'anti-émeute,
ouais,
armé de pied en cap, ouais, les policiers à cheval et qui chargent tout de suite.
Systématiquement.
Exactement. Ouais. Donc en 2008, j'étais un travailleur, un contribuable, un homme respectable.
Mmh,
en 2008, j'étais un petit étudiant qui ne paie pas de taxes aux études, et vous connaissez un peu le discours, un privilégié de cette société-là.
Mmh.
Donc, j'étais une personne qui n'était pas respectée, comme les itinérants, comme les punks, comme les minorités visibles.
Ouais. Et vous avez aussi, peut-être je vais fermer une petite parenthèse là, revenir avec vous un petit peu, vous avez la mort de M. Magloire, ça vous a interpellé parce que vous habitez pas loin de dans le secteur, et vous êtes sorti, je pense, vous avez vu, et qu'est-ce que vous avez retenu de cette mort-là?
Ouais. Excusez-moi, ça...
Vas-y. Vous reprenez votre temps, monsieur.
Excusez-moi, ça...
Prenez votre temps.
Alors, je suis ému par rapport à ça.
Oui. À la mort de monsieur, oui, à ce point-là. Alors juste, cher auditeur, on prend quelques secondes juste pour que Monsieur David Sanschagrin reprend un petit peu son souffle, parce que je viens de lui parler de la mort de Monsieur Magloire, cet itinérant qui était abattu par un policier au centre-ville de Montréal. Monsieur Sanschagrin, il habitait pas loin, donc il a, je ne sais pas s'il a vu l'événement ou bien il a été. Est-ce que vous connaissez l'individu en question?
Je connais pas l'individu personnellement.
Oui.
J'habite à côté. Donc, quelques minutes après la mort de M. Lagloire, j'ai vu tous les policiers. De ma fenêtre, je pouvais voir l'endroit où il était abattu. Je voyais tous les policiers qui étaient rassemblés et tout, et je me suis informé sur ce qui s'est passé. Et la mort de M. Lagloire est arrivée après ce qui m'est arrivé. Et ça m'a beaucoup sensibilisé sur l'arbitraire du pouvoir policier, l'arrogance du pouvoir policier, la violence du pouvoir policier. Et c'est cette mort-là qui était inutile, gratuite.
Vous dites inutile pour vous?
Oui, totalement. La façon dont les policiers ont intervenu, là, les policiers n'interviennent pas comme des gens qui essaient de savoir ce qui se passe et ils n'essaient pas d'apaiser la situation. Ils arrivent tout de suite avec leurs gros sabots, ils sont arrogants, ils crient, ils font juste mettre de l'huile sur le feu constamment dans leurs interventions.
Ouais.
Plutôt que d'essayer de calmer monsieur Alain Magloire, ils l'ont rentré dedans avec une voiture.
Ouais, ça c'est...
Et là, après ça, un policier a essayé de l'interpeller une fois qu'on lui rentrait dedans avec une voiture et l'homme, il est en crise et il y a un marteau. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? C'est d'une incompétence totale. Cet homme-là aurait pas dû mourir. Cet homme-là est en crise. Cet homme-là a souffert.
Mais, M. Chancrand, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le seul. Hein? Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont vécu malheureusement le même vécu de M. Magloire, qui ont perdu
beaucoup
leur vie.
Beaucoup trop de personnes.
Beaucoup trop de personnes. Mais ce que je trouve un petit peu important dans votre, quand j'ai parlé avec vous hors micro, vous dites que vous êtes avec ces gens-là qui disent que normalement, il faut désarmer les policiers au centre-ville. Ne devront pas porter d'armes au centre-ville. Est-ce que pensez-vous que ça, c'est une solution? Et est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
Oui, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une idée farfelue. Il y a plusieurs corps policiers dans le monde qui ne sont pas armés, dans plusieurs cantons en Suisse. Et en Angleterre, les policiers ne sont pas armés. En Angleterre, moins de 5% des policiers portent l'arme. Ils ont un entraînement, ils ont un permis, c'est extrêmement suivi tout ça. Dans le travail quotidien de la police, ils n'ont pas besoin de dégainer leurs armes, ils n'ont pas besoin d'être armés. Dans le gros travail, la grande majorité des interventions des policiers, ils n'ont pas besoin d'avoir d'armes à feu. Avoir une arme à feu change le comportement du policier qui a une arme à feu. Il se permet d'être plus arrogant.
L'attitude, elle change complètement.
L'attitude change totalement. Parce que si on a une arme à feu, on arrive là, puis on se croit là, le gros macho du monde, là, un peu comme M. Freddy Villanueva quand il est mort. Le petit Freddy Loulou à pointe, il est sorti de sa voiture de police, le petit arrogant blanc de banlieue, il est débarqué. Puis plutôt que d'interpeller des citoyens, on parle ici de citoyens de manière polie, de rappeler, M. Villeneuve, vous avez des conditions de libération, de façon très polie, il aurait pu être gentil, vous savez, je veux pas m'imposer, c'est mon travail, il aurait pu l'interpeller de façon polie. Arrivé de façon arrogante.
Exactement.
Avec des jeunes, qui tout ce qu'ils ont connu face au pouvoir, c'est l'arrogance du pouvoir.
Exactement.
Fait qu'il est arrivé, ils ont rajouté de l'huile sur le feu. Les policiers font tout le temps ça. Ils mettent de l'huile sur le feu, ils ne savent pas intervenir. Ils ont un entraînement paramilitaire.
Parce que, M. Chancrand, c'est très important ce que vous dites aussi, parce que si on essaie de revoir un petit peu toutes les, ce que vous appelez accidents, ce que vous appelez les bavures policières où il y a un mort d'homme derrière, on trouve toujours qu'il y avait une possibilité d'épargner cet individu-là.
Il faut dialoguer.
C'est pas juste dialoguer, parce que dans tous les cas, vous m'avez cité tantôt un exemple à Londres où il y avait quelqu'un qui était en crise et même armé, je pense, avec un couteau. Quoi.
Alors ça s'est passé il y a quelques semaines. Il y avait un homme armé dans le métro de Londres, il a poignardé 3 personnes au nom supposément de l'État islamique.
Et, ils n'ont pas abattu ce type-là.
Ils ne l'ont pas abattu. Ils ont procédé à son arrestation.
Chanceux qu'il n'était pas au Québec, là.
Oui. Et il y a quelques temps, on a vu circuler dans les réseaux sociaux une image d'un homme armé d'une machette à Londres. Et on voit une vingtaine de policiers autour de lui qui essayent de l'appréhender. Et ils ne lui ont pas tiré dessus. Puis ils ont fini par l'appréhender sans le tuer.
C'est des gens qui sont malades mentaux. Hein,
ben, effectivement. Donc,
ils souffraient, ils ont besoin de l'aide. Hein.
Il faut revoir les moyens d'intervention, mais aussi... Il faut avoir une autre vision de envers qui les policiers agissent. Des citoyens libres, des citoyennes libres qui ont le droit à leur vie et qui doivent être respectés. On dirait que les policiers oublient ça. Et moi, j'ai lu un sondage qui était fait en 1992 par André Jacob, qui est professeur en travail social à l'UQAM. Et ça disait que chez les policiers qu'il a interrogés, et son échantillon était très large, je parle de 300 policiers, là, chez les policiers qu'il a interrogés du SPVM, le respect pour les droits et libertés, c'est pas grand-chose. Pour eux, c'est un entrave à leur travail. Et plus les policiers étaient jeunes, moins ils voyaient de respect chez eux. Et là, je ne parle même pas de toutes les études qui parlent du profilage racial et la Ligue des droits et libertés qui parle de profilage politique.
Oui, ça c'est vraiment... C'est ça finalement, tu sais, le dénouement, là. C'est la crise, si vous voulez. Revenons maintenant avec vous. On va laisser un petit peu cette étape-là. Et j'aimerais bien, probablement, je vous inviterai le mois de janvier, et j'aimerais bien que vous acceptiez, parce que je vais faire une émission de radio sur Farshad, parce qu'il y a un développement dans le dossier de M. Mohamedi Farshad, cet itinérant qui a été abattu par un policier, des policiers de la SPVM en 2012, justement, dans la station de métro Bonaventure. Et j'aimerais bien vous inviter parce que vous allez voir et je présenterai un dossier spécialement pour la suite de cet événement-là, parce que le dossier est toujours devant la commission, le comité de déontologie policière. Est-ce que vous avez fait une plainte à la déontologie policière concernant les policiers qui vous ont accusé faussement?
Non, parce que entre le moment de mon arrestation et le moment de mon procès, il s'est passé à peu près un an et demi.
Et, à délai de prescription, c'était un an.
Je crois que oui. Et mon avocat, Maître Étienne Poitras, qui est un avocat magnifique, qui fait beaucoup de pro bono, mon avocat me dit, si on fait une plainte en déontologie policière, on doit révéler des éléments de votre future défense. Ouais. Et c'est peut-être pas nécessairement à votre avantage pour le moment.
Ouais. Voilà. Alors, chère auditrice, cher auditeur, nous allons juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec notre témoin. Et probablement même, je vais poser quelques questions à Madame Gomez à propos de la déontologie policière. Vous savez que la plupart des gens, un nombre très très élevé des gens qui ne font plus de demandes ou de plaintes, ne déposent plus de plaintes à la déontologie policière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement plus confiance à cette institution-là. Alors voilà, restez à l'écoute. Après quelques instants, on va revenir avec notre deux invités de ce matin. Voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice. Une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, je reviens directement maintenant avec ma collègue ici, Madame Paola Gomez. Vous me parlez, Madame Paola Gomez, à propos de les plaintes. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit que il y a une augmentation de 43% au niveau de la déontologie policière, des informations, demandes d'informations.
Oui, selon le rapport annuel de gestion de 2015-2014, déposé en septembre 2015 par le ministre Listerio.
2015?
Oui, oui. En septembre 2015. Oui. Il parle que dans les sites internet du commissaire a été consulté 40 130.
Alors, on parle de consultations, 43 000 consultations sur le site de la déontologie policière.
Oui, on parle d'une augmentation de 43%
par rapport à l'année précédente.
Oui. Mais malheureusement, toutefois, il dit que le nombre de plaintes reçues au cours de l'exercice a diminué en une proportion de 11%, puisque ce sont 1744 plaintes qui ont été déposées.
Alors, vous comprenez, chère auditrice, chère auditeur, il y a 43% de personnes d'augmentation, 43% d'augmentation de consultation sur le site de la déontologie policière pour voir ça donne quoi cette institution-là si une fois un plaignant, une victime veut déposer une plainte contre un policier. Mais par contre, il y a une augmentation en 2015, il y a une augmentation de 43%. Par contre, pour les plaintes, dépôt de plaintes, il y a une diminution.
Oui, il y a une diminution de 11%.
Alors, et ça vous explique ça comment? Je peux peut-être, monsieur David Chansangrain?
Ben, je pense que les gens n'ont pas du tout foi en la procédure.
C'est exact.
Ce qu'on voit souvent, c'est que peu de policiers reçoivent des blâmes. Et lorsqu'ils reçoivent des blâmes, des fois pour des actions très graves, ça va être 2 semaines de suspension sans salaire.
C'est rare, attention, c'est rare.
Oui, c'est rare. Donc, c'est une petite tape sur les doigts.
Une journée.
On ne refait pas ça, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça.
Fait que donc,
alors, les gens les sont découragés. Pourquoi je vais perdre mon temps, déplacer?
Oui. Et on parle pour des actions, des fois, si un citoyen ferait la même action, il pourrait être condamné avec une peine de prison.
Oui. Et encore une remarque aussi importante, que dans la déontologie policière, la déontologie profite de ses victimes, de ses plaignants, pour faire ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? On va appeler le policier fautif. C'est comme une formation continue pour le policier. Alors, on amène le policier, il s'assoit, on amène la victime ou le plaignant de l'autre côté, et ça va finir par être un dossier qui va être fermé, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Mais pour dire au policier, écoute, là, au moins, essayez d'apprendre à travers l'erreur que vous avez fait, mais sans qu'il sera blâmé, nullement. Alors, je reviens maintenant avec vous, monsieur David Sanschagrin, à propos du comportement, justement, du policier. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Je sais qu'il y a des études qui sont évoluées aussi, dans le regard posé sur le comportement des policiers, surtout
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites en sociologie, en criminologie, pour comprendre justement cette institution qu'est la police et comment les gens doivent s'y comporter, quelles valeurs sont valorisées. Donc, des policiers qui ont tendance davantage à dialoguer, d'avoir une approche davantage d'intervention sociale, ils ne sont pas valorisés par leurs collègues. Donc, ils ne font pas partie d'un certain code de comportement.
La gagne, là.
Donc, on veut des policiers plutôt machos, plutôt virils, qui font des interventions musclées. Et ils ont une vision de l'autorité qui est basée finalement sur une définition que moi s'appelle la violence. L'autorité, c'est pas d'arriver en criant, c'est pas d'arriver en intimidant, et c'est pas d'arriver avec la main sur le gun, si vous me permettez de le dire ainsi.
Exactement.
L'autorité, c'est d'arriver, d'être l'arbitre neutre, d'essayer de comprendre
la
situation.
C'est un agent de paix.
Oui, agent de paix, pas agent de provocation.
Oui.
Donc c'est servir et protéger, c'est pas sévir et provoquer.
Alors vous parlez un peu de l'influence un petit peu. Hein.
Exactement. Donc les policiers qui vont vouloir dialoguer. Plutôt que de mettre le citoyen et la citoyenne au sol et le menotter. Là, on parle de citoyen. Faut le rappeler, on est des citoyens avec des droits. Ils l'oublient souvent, les policiers.
Oui.
Il faut dialoguer. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la situation.
Oui.
Mais ça, c'est pas valorisé dans la police.
Oui.
Donc, on valorise des comportements basés beaucoup sur la répression.
Oui.
L'entraînement qu'ils ont, qui est un entraînement quasiment paramilitaire, est aussi un entraînement qui encourage la répression. Fait que c'est essentiellement une force répressive.
Est-ce que vous accusez le policier ou bien le système ou bien l'école ou bien l'éducation, à quel niveau nous sommes situés ici?
Ben, je dirais que c'est un peu tout ça en même temps.
Oui.
C'est parce qu'il y a une certaine culture qui existe dans tous les milieux professionnels. Mmh. Et une certaine culture, c'est qu'on valorise certains comportements, on valorise certaines idées, etc. Donc, dans le milieu policier, c'est un milieu qui est très macho, qui est très viril, où on valorise beaucoup une attitude répressive plutôt qu'une attitude plus basée sur une intervention sociale. Donc, l'intervention sociale, c'est méprisé chez les policiers et on valorise l'attitude répressive. Fait que c'est l'ensemble des policiers, c'est le système, c'est la formation qu'ils reçoivent. Mmh. Tout ça est encouragé. Et chez les policières femmes, ils arrivent dans un milieu très macho, donc ils doivent souvent redoubler d'ardeur et être encore plus agressifs que les policiers hommes, justement, pour être acceptés par les hommes.
Mmh.
Parce que les études démontrent, c'est que des fois, les policiers hommes veulent pas patrouiller avec les policières femmes, mmh, parce qu'ils se disent, si ça brasse, elles seront pas capables de me soutenir.
Oh my God.
Fait que donc, les policières femmes, des fois, sont encouragées à donner le petit coup de matraque de plus, à crier un petit peu plus fort pour justement être acceptée comme une policière comme les autres. Et des fois, on dit, ah, vous savez, une femme va manquer plus de journées de travail. Fait que les policières femmes sont encouragées à être encore plus assidues au travail, mmh, pour montrer qu'elles sont des policières comme les autres.
Maintenant, revenons un petit peu à l'idée là, que désarmer les policiers au centre-ville, surtout au centre-ville, désarmer les policiers, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un certain risque ici? Imaginez-vous quelqu'un qui a, je ne sais pas, très dangereux au point qu'il peut atteindre justement un policier. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un certain risque à cette demande-là?
Mais là, il faut que ça soit clair. Là. Ouais. Je ne dis pas de désarmer tous les policiers dans toutes les opérations.
Ouais.
Mais on sait très bien que la très grande majorité de toutes les interventions policières, mmh, n'implique pas de dégainer son arme, d'utiliser son arme.
Exact.
Moi, ce que je dis, c'est que le problème qu'ils aient une arme encourage une autre psychologie, une autre approche du travail policier, plutôt, mmh, que basée sur le dialogue, la compréhension et l'intervention sociale, mmh, surtout face à des gens qui vivent des situations difficiles.
Mmh.
Fait que donc, la grande majorité des interventions ne nécessite pas d'avoir un fusil. Et je dis pas qu'ils n'auront pas de matraque. Ils peuvent avoir une matraque sur eux. Ils peuvent avoir du poivre de Cayenne. C'est déjà des armes suffisantes.
Vous êtes pour le pistolet taser ou vous êtes contre?
J'ai des doutes sur le pistolet taser, ouais, la façon dont c'est utilisé. Les policiers anglais vont l'utiliser, le pistolet taser, mais c'est une très infime minorité de policiers anglais qui le possèdent.
Mmh.
Et ça demande une formation assidue. Souvent, les policiers qui le possèdent n'ont pas la formation. Et les cas qu'on a vus, je pense à l'aéroport de, un aéroport de Vancouver, je me trompe pas, la GRC,
ouais,
avait teasé, je sais pas combien de reprises, un pauvre homme qui était mort d'une crise cardiaque.
Mmh.
Fait que j'aimerais mieux pas avancer sur le sujet du taser, mais tout ce que je veux dire, c'est dans la très grande majorité des interventions, il n'est pas nécessaire d'avoir un fusil.
Mmh.
Et d'ailleurs, ces policiers-là, une enquête de la CCST révélait qu'à peu près 50% d'entre eux ne savent pas l'utiliser, ne l'entretiennent pas. Et cette enquête-là, la CCST est arrivée après qu'un coup de feu soit parti dans un poste de police à Montréal.
Mmh. Maintenant, vous avez cité à tantôt aussi la mort d'hommes, justement, malheureusement, par les balles de policiers. Et vous avez fait une petite comparaison à ce stade-là de désarmer les policiers au centre-ville. Vous avez parlé un peu de Londres et tout. Comment on peut prendre justement un exemple de cette comparaison et qu'on peut le faire enraciner ici au Québec, par exemple?
Bien, si on regarde justement la question d'armer ou pas les policiers, bien, dans le travail quotidien, les policiers anglais ne sont pas armés, mais c'est sûr que si un braquage de banque, ils vont envoyer la police armée.
Voilà, c'est ça, vous comprenez?
Oui, s'ils font une descente dans un endroit où ils pensent que c'est des trafiquants de drogue, ils n'enverront pas des policiers désarmés. Fait que je suis pas en train de proposer de l'absurde. Je ne pas poser dans les relations normales avec les citoyens d'avoir une autre attitude qui ne nécessite pas de devoir mettre la main sur le gun et devoir l'utiliser.
Oui, monsieur Saint-Gérin, si c'est encore, si imaginez-vous là au centre-ville quelqu'un qui porte justement une arme et puis là il y a un certain problématique qui va s'exploser, les policiers sont là devant lui, ils sont désarmés. Vous pensez pas qu'il y a le risque qu'ils vont être tués par cette personne-là, parce que malheureusement, ils ne peuvent pas se défendre adéquatement?
Mais là, je pense que c'est un scénario hypothétique qui doit arriver très peu souvent. Les policiers dégainent rarement, même, et des policiers ont toute une carrière.
Non, mais en face de quelqu'un qui a une arme, c'est le problème.
Oui, je sais, mais là, on parle d'une situation extrêmement rare. Si on parle d'une personne, les policiers interviennent, il a une arme, les policiers peuvent prendre du recul et appeler les policiers qui ont des armes à arriver sur le terrain.
Mmh.
Les policiers ne sont pas toujours obligés de faire des héros, de plaqué au sol. D'ailleurs, ils demandent aux citoyens de ne pas faire des héros. Ben, alors, je les encourage à faire la même chose. Avec Alain gloire, ils ont voulu faire les héros plutôt qu'attendre le policier qui s'en venait avec un teaser. Mais on voit ce que ça donne. Fait que j'appelle les policiers à être conséquents et ne pas jouer les héros eux non plus.
Dans le cas de Magloire, vous citez toujours ce nom-là. Pour vous, il est tout à fait évident qu'on aurait pu épargner la vie de ce type-là.
Cette mort-là était ridicule, inutile, gratuite. Et les policiers ont vécu un traumatisme après l'événement. Ils sont partis tous en ambulance. Tous les mêmes policiers qui auraient dû être isolés pour être interrogés sont partis ensemble dans l'ambulance. Donc, ils ont pu se parler dans l'ambulance.
Mais ça, c'est une technique. Hein? Chaque fois qu'il y a un policier qui tire sur quelqu'un, on l'amène...
Ils partent tous en ambulance, invoquant un traumatisme. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas vécu de traumatisme, mais ils ont tous mis dans la même ambulance.
Oui, c'est clair. Peut-être maintenant, monsieur Sonchagrin, revenons à votre... toujours, vous avez... c'est derrière vous, hein, cette accusation à la police et tout. Et vous êtes maintenant un homme libre et tout. Vous continuez à faire vos études et tout. Vous êtes impliqué maintenant dans l'action... comment on appelle ça? Une action... de militantisme, hein. Vous écrivez aussi dans des journaux. Vous,
présentement, je ne milite pas parce que je suis au doctorat à temps plein, mais j'ai longtemps milité, mais je continue à écrire et à dénoncer l'injustice quand je la vois.
Vous rédigez ça, vous participez dans des journaux, certains articles et tout. Est-ce que, face à vous, là, présentement, qu'est-ce que vous pensez une fois, est-ce que vous pensez à un moment donné, quelle est la meilleure manière de sensibiliser la population à cette problématique-là et venir en aide à la population?
Ben, je pense que une émission comme celle-ci peut jouer ce rôle-là, d'en parler autour de nous, c'est quelque chose d'important. Et je veux pointer aussi vers un documentaire qui est magnifique, qui s'appelle Zéro Tolérance, un documentaire qui a été fait à l'ONF, qu'on peut trouver en ligne. Je crois que c'est Michael Saya qui a réalisé ce documentaire-là. Et c'est un documentaire qui s'intéresse justement sur la discrimination raciale par le SPVM à Montréal. Et c'est un documentaire qui doit être vu, et d'autres documentaires comme ça doivent être vus pour que les gens soient sensibiliser sur la situation des gens qui doivent subir la violence policière parce qu'ils ne sont pas, entre guillemets, des citoyens respectables.
Oui. Pour les gens qui vous écoutent ce matin aussi, qui sont quelqu'un qui est accusé faussement par les policiers, est-ce qu'il devra plaider coupable? Est-ce qu'il devra baisser les bras? Est-ce que, quelle est la situation? Quelle est la posture qu'il peut présenter à votre avis?
Bien, j'encourage tout le monde à être accusé faussement par les policiers, justement, à refuser les offres de plaider contre l'amnistie.
Même si c'est un avocat qui lui propose?
Oui, mais en même temps, quand je vous dis ça, je prends en compte ma propre situation un peu privilégiée. Mais en même temps, je sais que c'est pas facile. Ouais. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on accepte de plaider coupable et qu'on est amnistié, on nourrit les statistiques des policiers et disent « Ah, vous voyez, on a fait tant d'arrestations et on a tant de verdicts de culpabilité. » Il faut pas les encourager parce qu'ils arrêtent beaucoup trop de gens gratuitement. Les policiers vous demandent de fouiller votre sac avant une manifestation. Vous dites non. Ils veulent vous fier quand même. C'est illégal. Ils ont pas le droit. Et vous dites « Ah, vous voulez pas que je fouille votre sac? Parfait, je vais vous mettre en état d'arrestation. »
Exact.
Fait que là, ça veut dire on doit réfléchir entre 5 heures en état d'arrestation ou laisser le policier fouiller dans notre sac. La majorité des gens vont se dire ben OK, fouille dans mon sac. Ça nous tente-tu d'aller passer 5 heures au poste ou 5 heures dans la voiture patrouille ou 5 heures dans le fourgon cellulaire? Fait que des abus constants, il y en a constamment. Fait que j'encourage les gens à défendre leurs droits tout en étant conscient que c'est pas tout le monde qui connaissent la procédure et qui veulent passer au travail.
Mais parce que même son chagrin, il y a des gens qu'on encourage et conseille les gens de tempérer, hein, c'est de se plier un petit peu aux ordres des policiers dans toutes ces circonstances, justement pour ne pas tomber justement dans ce piège-là d'être accusé faussement.
Oui, mais en même temps, beaucoup de gens qui sont victimes de la violence policière, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens. Oui. Nouveaux immigrants qui ne connaissent pas le système, des gens qui sont plutôt pauvres, etc., etc. Donc, c'est des gens qui ne sont pas outillés à se défendre dans le système contre les policiers et contre le système policier.
Un grand merci à M. David Sonchagrin, et donc il est étudiant à l'UQAM en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir aujourd'hui. Vous avez vraiment éclairé beaucoup de points et je souhaiterais vous rencontrer au début de l'année prochaine pour justement discuter d'un autre sujet, celui de M. Farshad. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà qu'on arrive au terme de cette émission. Alors je vous souhaite des bonnes fêtes et une bonne année en même temps. Je remercie aussi Mme Paula Gomez. Je remercie notre technicien du son, M. Anthony Nido. Je remercie énormément
Samar.
Elle participe aussi avec nous. Je remercie énormément Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. À vous, chers auditrices, chers auditeurs, on va se revoir, rencontrer l'année prochaine. Alors, d'ici là, je vous souhaite joyeux fêtes et bonne année. Au revoir.
Les élèves de Montréal ont beaucoup de choses à vous raconter. Radio Enfant, c'est tous les mercredis de 9h30 à 11h30
sur les ondes de Radio Centre-Ville.
102,3 FM.
Ne manquez surtout pas la prochaine émission.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM. 40 ans d'indépendance.
L'indépendance journalistique est capitale à mes yeux. Refléter les points de vue, les regards différents sur le même fait de société, c'est refléter notre société démocratique et pluraliste. Je m'appelle Cyril Ekwala, je suis journaliste.
Radio Centre-Ville, depuis 40 ans, un monde différent.
La Scène musicale, votre référence numéro 1 pour les actualités musicales, se jumelle pour son numéro de décembre-janvier au magazine des arts La Scène. Retrouvez à la une de la Scène musicale Gino Quilico et en couverture de La Scène, le cinéaste du film Chasse-Galerie La Légende, Jean-Philippe Duval. Ne manquez pas notre guide des festivals d'hiver et plusieurs idées cadeaux. De plus, abonnez-vous et courez la chance de gagner de nombreux prix musicaux. Tous les détails dans le magazine ou sur notre site web www.scena.org.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.